Il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Le premier contre-la-montre d'Elisabeth Borne, former un nouveau gouvernement avant la fin de la semaine. La chasse au bon CV pour une équipe resserrée. Le burkini autorisé dans les piscines de Grenoble, une décision qui ne passe pas. Gérald Darmanin mobilise le préfet. L'opposition municipale dépose un recours. Le contrôle technique bientôt obligatoire pour les deux roues. Le répit concédé par le gouvernement vient d'être retoqué par le Conseil d'État. On vous dira quand vous tenir prêt. L'ouverture du 75e Festival de Cannes, la fête du cinéma, cette fois sans restriction. On vous emmène sur le tapis rouge en fin de journal. Il fera lourd demain sur presque toute la France, jusqu'à 35 degrés à l'ombre. Toutes les températures à suivre avec Marlène Duret. L'invité éco à 22h20, je recevrai le patron de Sixt France. On verra comment se porte la location de voitures après la crise sanitaire. Et puis, avant la libre antenne, les unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
Il y a des téléphones qui sonnent et d'autres qui restent désespérément muets. Elisabeth Borne est au travail pour constituer son équipe. La première ministre a longuement échangé avec Emmanuel Macron à l'heure du déjeuner. Avant la fin de la semaine, Jacques Serret, Elisabeth Borne doit donc former son nouveau gouvernement.
Oui, car c'est à elle que revient cette mission en tant que nouvelle première ministre, même si dans tous les cas, c'est bien Emmanuel Macron qui a la main. Et en coulisses, ce qui se joue, c'est bel et bien l'équilibre entre la gauche et la droite. Le fameux « en même temps », cher au président. Alors plusieurs responsables politiques de droite tentent d'influencer les nominations pour un rééquilibrage. Puisqu'Elisabeth Borne est de gauche, pour contrebalancer, il faudra plus de place accordée à la droite, un ministre de droite. Une certitude, le Conseil des ministres qui a lieu habituellement le mercredi ne se tiendra pas demain. L'annonce du gouvernement d'Elisabeth Borne devrait avoir lieu entre demain et vendredi. Mais dans un premier temps, il pourrait s'agir d'un gouvernement resserré, une quinzaine de ministres tout au plus. Et la nomination des ministres délégués et autres secrétaires d'État pourrait avoir lieu dans un second temps, après les élections législatives du 12 et 19 juin.
Jacques Serret avec Elisabeth Borne à Matignon. Jean-Luc Mélenchon tient sa nouvelle cible numéro 1. Le chef de file des Insoumis était aujourd'hui en campagne à Nantes et à Saint-Nazaire. Aussitôt descendu du train, Charles Guyard, Jean-Luc Mélenchon a sauté sur l'occasion pour tacler la première ministre.
Oui, il est arrivé pile à l'heure à 14h19 et cette ponctualité offrait déjà un premier angle d'attaque à Jean-Luc Mélenchon. Le train, ça marche bien, pas besoin d'une concurrence privée voulue par Elisabeth Borne, ancienne dirigeante de la SNCF, puis ministre des Transports.
On l'a connue à la SNCF où il l'appelait Madame Burnout. Ensuite, on l'a connue avec la loi sur les transports. Non pas pour rendre le transport collectif plus efficace, non, rentabiliser toujours la concurrence. Autrement dit, organiser le chaos.
Le chaos, le leader de la NUPES accuse l'ancienne ministre du Travail de l'avoir déjà semé, avec notamment la réforme de l'assurance chômage qui prévoit un durcissement des règles pour les allocataires.
1 million de personnes ont perdu presque 20% de leurs allocations chômage. Voilà les réussites de cette femme. Nous allons avoir quelqu'un qui est en pointe sur des projets de brutalité sociale et écologique.
Des projets que la première ministre n'aura peut-être pas le temps de lancer, c'est du moins le leitmotiv de Mélenchon qui l'a encore répété.
Bah, normalement, dans un mois, c'est fini, c'est moi.
Vous lui dites de ne pas déballer les cartons maintenant, ça sert à rien.
Si elle oublie quelque chose dans mon bureau, je lui rendrai.
Et en attendant, la locataire de Matignon risque d'avoir encore les oreilles qui sifflent, au moins jusqu'aux législatives.
Bon, je ne vais pas être trop méchant pour l'instant, puisque Madame Borne, elle va durer un mois. Hein. Donc, il faut que j'en ai pour chaque étape.
Eh oui, et en parlant d'étape, on vote bien les 12 et 19 juin prochains pour les législatives. Et en toute logique, les résultats seront connus. Ensuite, reportage Charles Guyard à Nantes pour Europe 1. Damien Abad promet de clarifier sa situation dans les 48 heures. Le président du groupe LR à l'Assemblée est accusé par son parti de se rapprocher d'Emmanuel Macron. LREM, aujourd'hui Renaissance, n'a investi aucun candidat face à lui pour les législatives. On est dans la 5e circonscription de l'Ain où Damien Abad est candidat à sa réélection. Il y aura des suites à l'autorisation du burkini dans les piscines de Grenoble. Décision adoptée hier d'une courte tête par le conseil municipal à l'initiative du maire écologiste Éric Piolle. Une décision qui ne passe pas pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
Bon, la provocation du maire mélenchoniste de Grenoble est évidemment inacceptable. Permettre l'imposition de vêtements religieux alors qu'on va dans une piscine publique, il s'agit bien de ça, c'est évidemment scandaleux et il le fait à dessein dans cette période électorale. Il le fait par provocation. Alors donc moi je regrette ces provocations et j'ai donc demandé sur le fondement de la loi séparatisme au préfet d'Isère de déférer avec un déféré laïcité qu'on a créé, qui va demander au tribunal effectivement si cela est conforme à la loi de la République. Et si ce n'est pas le cas, je demandais par ailleurs au préfet de demander le retrait de l'acte au maire de Grenoble et sinon de le présenter devant le tribunal administratif. Non seulement ce burkini n'a rien à faire dans la piscine, parce que je me moque de savoir quelle est votre religion lorsque je suis dans un lieu de service public, mais en plus, il le fait vraiment à dessein électoral. Ce n'était pas la priorité, je crois, numéro un des habitants de Grenoble, chacun le comprend.
Gérald Darmanin au micro de Lionel Gougelot. On apprend aussi que l'opposition municipale de Grenoble dépose un recours en justice contre l'autorisation du burkini dans les piscines gérées par la ville. Motards et automobilistes, même combat. En tout cas, ils auront bientôt tous les mêmes obligations face au contrôle technique. Le Conseil d'État a donné raison à des associations de protection de l'environnement. Le contrôle technique des deux roues de plus de 125 cm3 devra être en place le 1er octobre au plus tard. C'est une obligation européenne que le gouvernement avait tenté de repousser à 2023. Camille Mialot est l'avocat de l'ONG Respire.
Ça va changer énormément de choses pour le quotidien des gens, parce qu'il y a ceux qui vivent le bruit des deux roues. Et le contrôle technique, évidemment, c'est le contrôle de la motorisation, du bruit. Donc il y a cet aspect qui est important. Et puis il y a aussi l'aspect sécurité. Hein. Il faut savoir que la France est le pays où l'accidentalité des deux roues par kilomètre parcouru est le plus important d'Europe, avec un coût en termes d'hospitalisation énorme. Donc ça va être des vies économisées en quelque sorte. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle.
Camille Mialot de l'association Respire, joint par Carole Ferry. Les larmes de Jesse Hughes au procès des attentats du 13 novembre. Le leader du groupe Eagles of Death Metal était sur scène quand les terroristes ont mitraillé le public du Bataclan. Aujourd'hui, la cour a entendu deux membres du groupe de rock californien Ocean Tear, témoins eux aussi de cette soirée d'horreur.
Oui, l'ancien guitariste du groupe Eden Galindo d'abord. Il se replonge dans cette soirée du 13 novembre. Un très bon concert, sans doute le meilleur de la tournée, se souvient-il. Ses yeux se ferment parfois pour n'omettre aucun détail. Les premiers bruits de tir à la moitié du concert, les flashs de lumière dans la fosse. Je pensais que le système de son explosait, raconte Eden Galindo. Puis il entend cette phrase du chanteur du groupe « Ils sont en train de tirer ». Vient ensuite la fuite à l'arrière de la scène, la sortie du Bataclan, le trajet en taxi jusqu'au commissariat. Mes souvenirs sont parfois flous, souffle Jesse Hughes, le chanteur qui s'avance ensuite à la barre. Avec son imposante moustache rousse et sa boucle d'oreille argentée, il évoque les accusés. Ce qu'ils ont essayé de faire ce soir-là, c'est de faire taire la joie que nous apporte la musique. Ils ont échoué. Mais à la sortie de l'audience, il veut surtout accorder son pardon.
C'est important de pardonner. Je suis chrétien et tout le monde peut être perdu, mais tout le monde doit retrouver son chemin. Je pense que ces messieurs le retrouveront. Donc je les pardonne et j'espère qu'ils trouveront l'amour de Dieu.
Jesse Hughes, qui avait conclu son témoignage de sa grosse voix grave teintée d'accent californien en citant quelques mots du chanteur de métal Ozzy Osbourne, « Vous ne pouvez pas tuer le rock'n'roll ».
Océane Théard à la cour d'assises spéciale de Paris.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
La Suède et la Finlande enverront demain leur demande officielle d'adhésion à l'OTAN, au siège de l'Alliance Atlantique. L'adhésion est encore débattue ce soir au Parlement suédois. Le Parlement finlandais, lui, a massivement voté pour cette candidature. Caroline Baudry, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Helsinki. C'est donc un oui à plus de 95%.
188 voix pour, 8 contre. Sans surprise, les parlementaires finlandais réunis dans l'immense bâtiment qui abrite l'hémicycle ont choisi de sortir le pays de sa neutralité militaire. Pour cette session historique, plus d'une centaine d'élus ont tenu à prendre la parole à la tribune. Deux journées de discours pro-OTAN, peu de débats. Le député Andersson Alderkrud s'est prononcé en faveur de l'adhésion.
Nous pouvons appeler ça un processus rapide. Il y avait un sentiment d'urgence. L'attaque de l'Ukraine par la Russie a complètement modifié notre façon de vouloir nous placer. La chose importante est d'avoir réussi à coordonner le processus avec la Suède. Nous sommes alignés, nous y allons ensemble, c'est un jour historique.
Demain, le protocole démarre par des négociations à l'OTAN pour savoir si la Finlande remplit les critères pour en faire partie, puis la demande doit être ratifiée par chacun des parlements des 30 États membres. Cela peut prendre de longs mois, mais le patron de l'OTAN a promis un processus rapide pour la Finlande et la Suède qu'il dit accueillir à bras ouverts. Helsinki, Caroline Baudry, Europe. Europe 1.
Ouais, le principal obstacle vient de la Turquie qui a réaffirmé hier son hostilité à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN malgré les échanges diplomatiques du week-end. Dans le sud de l'Ukraine maintenant, le sort de Mariupol semble scellé si l'on en croit cette annonce de Moscou. 265 soldats ukrainiens qui étaient retranchés dans l'usine Azovstal ont rendu les armes. Kiev espère les échanger contre des prisonniers russes. Pour Vladimir Poutine, en tout cas, c'est une étape importante vers la prise totale de Mariupol, Mathieu Limongi.
Ces 265 soldats qui sont sortis de l'usine aujourd'hui ont été faits prisonniers et ont été transférés en territoire pro-russe, a annoncé Moscou. La semaine dernière, avant cette reddition, Kiev parlait de 1000 soldats, dont plusieurs centaines de blessés encore retranchés dans le bâtiment. On sait aujourd'hui qu'il y en a toujours, car ils communiquent sur les réseaux, notamment des membres du bataillon Azov. Et pour Carole Grimaud-Potter, professeure en géopolitique et spécialiste de la Russie, cette première étape signe la fin de la résistance ukrainienne à Mariupol.
Ont accepté la défaite sans la nommer. Le président Zelensky n'a pas donné l'ordre de se rendre. Il a simplement annoncé que les soldats avaient rempli leur mission et que le plus important aujourd'hui était de sauver des vies. C'est une situation qui ne pouvait durer. La seule solution possible était effectivement de demander à ces soldats de se rendre, même si on ne prononce pas le mot, mais en tout cas d'éviter qu'ils soient tous tués.
L'Ukraine a besoin de ses héros vivants, déclarait hier le président Zelensky. Des discussions sont en cours entre les deux parties concernant le sort de ces nouveaux prisonniers.
Mathieu Limongi. Un signal de l'Élysée au président Zelensky après le récent coup de colère du président ukrainien qui avait reproché à Emmanuel Macron des discussions vaines avec Vladimir Poutine. Eh bien, le chef de l'État promet que la France va intensifier ses livraisons d'armes à l'Ukraine dans les jours et les semaines qui viennent. Joe Biden s'est rendu ce mardi sur les lieux de la tuerie raciste de Buffalo dans l'État de New York. Un jeune adepte du suprémacisme blanc a tué 10 personnes afro-américaines dans un supermarché. Écoutez les mots cet après-midi du président américain.
Ce qui s'est passé ici est simple et évident. C'est du terrorisme. Du terrorisme. Du terrorisme intérieur. Le suprémacisme blanc est un poison. C'est un poison. Vraiment. Et il se répand dans notre corps politique. Et nous l'avons laissé suppurer et grossir devant nos yeux. Ça suffit.
Joe Biden, on apprend que Twitch pourrait être poursuivi au Texas pour avoir censuré les images de la tuerie dont les premières minutes ont été diffusées en direct avant d'être coupées par la plateforme. Twitch pourrait payer au nom d'une loi contre la censure qui a été tout juste adoptée dans l'État du Texas. 47 collégiens et leur accompagnatrice ont été pris de malaise dans un centre culturel près du Puy-en-Velay. Aujourd'hui en Haute-Loire, 8 ont dû être hospitalisés. Tout a commencé ce matin au cours d'une répétition de danse. Des adolescents de 12 à 15 ans ont été pris de maux de ventre et d'une grande fatigue pour une raison encore inconnue. Des analyses d'eau sont en cours. Les résultats seront connus dans les 48 heures. Selon qu'elles vivent à Nice ou à Limoges, les familles ne sont pas toutes égales dans l'accès aux EHPAD. Après Orpea, c'est l'autre scandale des maisons de retraite, celui des énormes disparités régionales dans la disponibilité et dans le prix d'une chambre. C'est ce que révèle une enquête UFC Que Choisir. Certaines régions disposent de 4 fois moins de places, Céline Géraud, pendant que le prix peut varier du simple au triple.
Oui, par exemple, à Verdun, dans la Meuse, une chambre en EHPAD coûte 1 749 € par mois. En revanche, à Lyon, Marseille ou Nice, le loyer monte à 2 600 € et à près de 3 700 € à Paris. Cette différence de tarifs s'explique par le nombre croissant d'EHPAD privés dans les grandes agglomérations qui proposent davantage de places disponibles que les établissements publics. Alors, pour éviter ces dérives, l'association UFC Que Choisir demande la création de places supplémentaires dans le secteur public, mais aussi un plafonnement des évolutions tarifaires dans le privé. Odette Marais, administratrice nationale de l'UFC Que Choisir.
Il faut savoir qu'un résident qui rentre en EHPAD, il signe un contrat qui l'engage pour une certaine somme. Et bien souvent, lorsque ce résident disparaît, il est remplacé et le directeur est en droit, pour les EHPAD privés, d'augmenter la participation demandée à la famille. Et c'est pourquoi nous demandons à ce que le montant pour un résident soit plafonné de façon systématique.
D'autant que le vieillissement de la population va inévitablement accroître le nombre de personnes âgées dépendantes. On en dénombre 2,5 millions aujourd'hui et selon les prévisions de la Cour des comptes, ce chiffre pourrait atteindre 4 millions en 2050.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Vous allez avoir encore plus chaud ce mercredi et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle justement pour les plus fragiles d'entre nous. Marlène Duret vous donnera le détail des températures dans un instant. Aujourd'hui, il a fait 33 à Montélimar, 30 à Paris où d'un seul coup, coup, ce sont les places à l'ombre qui sont devenues les plus rares. Saïma Salimi a rencontré des Parisiens en quête d'un peu de fraîcheur.
Il fait trop chaud, je crève de chaud. À Paris, il y a du bitume partout, enfin, on étouffe. On est quand même qu'au printemps, non ? On n'est même pas en été. On n'a pas grand-chose pour se rafraîchir.
Là, ils annoncent 30. C'est agréable à l'ombre, dans les parcs parisiens. On peut se poser la question, au mois de juin, au mois de juillet, à combien on va monter, quoi ?
Vous devrez avoir ce temps-là au mois d'août.
On est content, mais en même temps, avec tout ce qu'on connaît à côté, on se pose forcément des questions. Pour le moment, on en profite, quoi, mais il ne faudrait pas que ça soit tout le temps pareil.
Et oui, on pourrait frôler demain des records de température dans la vallée du Rhône. Après le forfait de Gaël Monfils pour Roland-Garros, le tennis français retrouve des raisons d'espérer puisque Richard Gasquet a battu aujourd'hui le numéro 2 mondial Daniil Medvedev en 8e de finale du tournoi de Genève à 5 jours de Roland-Garros. Le Russe a été opéré d'une hernie le mois dernier et n'est pas le plus à l'aise, il faut le dire, sur terre battue. Partons maintenant pour la Croisette où s'est ouvert ce soir le 75e festival de Cannes. Un retour grand format après une année sans en 2020 et une édition perturbé par le Covid l'année dernière. Cette fois, le tapis rouge a retrouvé tout son éclat. Marie Jiquel, vous suivez pour Europe 1 cette première soirée du festival.
Première soirée et premier film. Le Palais des Festivals projette en ce moment même la comédie de Michel Hazanavicius, Coupé, un film hors compétition. Le festival voulait débuter par une note joyeuse avec ce film décalé qui raconte l'histoire du tournage d'un film ridicule, un navet avec des zombies, avec Romain Duris et Bérénice Bejo. Plutôt dans la soirée, tout les regards étaient rivés sur le tapis rouge et son défilé de célébrités et puis tout près de ces 24 marches des festivaliers collées aux barrières.
C'est la première fois que je viens, j'habite ailleurs et je me disais allez c'est l'occasion. C'est pas tous les jours, hein. Mais je vais rester toute la semaine donc j'ai sorti ma garde-robe.
On est arrivé vers 16h pour être sûr d'avoir une bonne place. J'ai amené mes jumelles pour voir les célébrités.
Ah allez. Mais vous avez vu
Vincent Lindon ?
Oui, qui est venu signer un autographe, gentiment, tout naturellement. On l'a appelé, il est venu vers nous, voilà, tout simplement.
On a évidemment vu passer sur ce tapis rouge le jury et son président, l'acteur Vincent Lindon, qui a d'ailleurs eu une pensée pour l'Ukraine lors de son discours. On a aperçu également l'acteur américain Forrest Whitaker, qui a reçu la Palme d'Or d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture, cérémonie conduite par l'actrice Virginie Efira.
Marie Jiquel au Festival de Cannes qui s'est ouvert aussi par un message du président Zelensky. Ovation du public quand le président ukrainien est apparu sur l'écran du Palais des Festivals. Il nous faut un nouveau Chaplin, a-t-il glissé, qui prouvera que le cinéma n'est pas muet face à la guerre. Quant au temps pour demain, Marlène Duret, c'est un festival de haute température hein, qui nous attend. Il y a de l'orage dans l'air déjà demain.
Oui, et déjà cette nuit un petit peu. Alors on en a eu aujourd'hui. Je vois qu'en ce moment, il y a une petite ligne orageuse. Ce sont des résidus hein, entre la Haute-Normandie, l'Anjou. Ça va se décaler un petit peu vers le bassin parisien là, dans les heures qui viennent. Et puis même jusqu'à la frontière belge. Bon, tout ça, ça va se décaler. On va retrouver une matinée plutôt calme, beaucoup de ciel bleu. Allez, c'est vrai, un ciel un peu plus nuageux du côté de la Bretagne, sur la pointe Bretagne, avec quelques petites gouttes d'ailleurs. Sur le bout du nez, comme j'aime dire, sur l'île de l'Ouessant, par exemple, ou l'archipel de Molène. Quelques grisailles brumeuses aussi au lever du jour sur le littoral du Languedoc-Roussillon. Partout ailleurs, vraiment très très belle matinée. Puis, dans le courant de la journée, le temps va devenir lourd, avec déjà des pluies qui vont arriver sur la pointe Bretagne, et puis surtout cette convergence des vents. On a de l'air frais en provenance de l'Atlantique, qui va venir à la rencontre d'un vent déjà bien chaud là, dans l'intérieur des terres. Ça va... Voilà, les cumulonimbus vont commencer à se former et donc des orages sont attendus en fin de journée, plutôt en soirée, sur le sud de l'Aquitaine en remontant vers le Poitou. Le vent va basculer aussi, la Galerne, vous connaissez la Galerne ? C'est un vent régional du Pays Basque et des Landes qui va monter à 80 km/h. Grosse chute des températures d'ailleurs entre le début d'après-midi et la fin de journée du côté du Pays Basque, on pourrait perdre 10 degrés d'un coup. Et puis on a de l'instabilité aussi sur l'est de la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Donc là aussi, ça va tonner fort le soir.
Les températures, il va faire donc plus chaud qu'aujourd'hui, Marlène.
Et oui, on monte d'un cran avec le plus souvent 27 à 34 degrés, Alexandre, jusqu'à 33 à 35 attendus dans le sud-ouest et en vallée du Rhône, où là aussi, les records de température pourraient être à nouveau battus. Il fera un petit peu plus frais, évidemment, quand on ira au bord de mer, vers la Manche, avec 20 à 25, ou encore près de la Grande Bleue, entre 23 degrés du côté de Cannes, jusqu'à 29 à Perpignan. Puis, je peux vous dire qu'on a battu un record, là, aujourd'hui, à la pointe de la Hague, cet après-midi dans la Manche, avec 26,6, nouveau record établi. Le précédent était de 26, il datait du 21 mai 1922, il y a près de 100 ans, à quelques jours près.
On reste à l'ombre et en bois frais. Merci, oui. Marlène Duret.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Le Top à Wall Street vous est présenté par BNP Paribas, aux côtés des PME et des ETI engagés dans une démarche RSE avec ses solutions de financement à impact.
Top à Wall Street sur Europe 1 avec Didier Hamot. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De Boursier.com, Wall Street qui repart de l'avant après des statistiques économiques plus rassurantes aux États-Unis.
Ça va mieux, un petit peu mieux. Le Dow Jones remonte de 1,34%, 32 655 points. Surtout le Nasdaq reprend 2,76%, 11 984 points. Les ventes au détail ont progressé de 0,9% en avril aux États-Unis et la production industrielle américaine a même grimpé d'1%. C'est mieux que prévu, ça a un petit peu rassuré le marché qui redoute une prochaine récession outre-Atlantique. Et donc, ça donne des valeurs de technologie qui repartent de l'avant. Apple, plus 2,5% à $149,24. Microsoft, plus 2%. Amazon reprend 4%. Netflix, plus 2%. Tesla reprend même 5%. À $761,60. Il y a quand même un couac, une exception, c'est le distributeur Walmart qui chute de 11%, un petit peu plus, même 11,3%, $131,35, malgré un bénéfice net trimestriel de plus de $2 milliards, mais qui ressort inférieur aux attentes en raison de l'impact de l'inflation sur les ventes du groupe Walmart. Le pétrole retombe aussi de 4%, il revient sous les $110 le baril. L'euro est un petit peu plus ferme ce soir, 1,05 face au dollar.
La Bourse de Paris reprend également de la hauteur avec Engie.
Oui, ça va mieux aussi, plus 1,3% sur le CAC 40, 6 430 points. Le groupe Engie s'est distingué en hausse de plus de 5%, 12,25 €. Le spécialiste de l'énergie a révisé en hausse ses perspectives 2022. Après un premier trimestre soutenu, le résultat net devrait se situer cette année entre 3,8 et 4,4 milliards d'euros. Engie en hausse de 5,3% ce soir à la clôture. Quelques valeurs industrielles remontent aussi. Eramet plus 5%, Imerys plus 4%, Nexans plus 3% et Schneider plus 3,3% à €128,92.
Exception du jour, c'est le titre Plastivaloir qui n'a pas participé à la reprise.
L'équipementier, oui, Plastivaloir a perdu 1,5% sous les 5 euros, 4,93 €. Le groupe a averti le marché des conséquences négatives des tensions inflationnistes, de l'envolée des matières premières et du coût des transports. Ça fait beaucoup de quoi peser sur les marges de Plastivaloir en baisse ce soir d'1,5%, donc sous les 5 euros. Les autres places financières reprennent de la hauteur un petit peu partout. En Europe, le DAX reprend 1,6% à Francfort, Bruxelles plus 1%, Madrid plus 1,5% et le CAC 40 en hausse d'1,3%, 6 430 points.
Merci Didier Hamot.
Alexandre Lemaire sur Europe 1. La Caisse d'Épargne vous présente l'invité éco. Caisse d'Épargne, vous être utile.
L'invité éco sur Europe 1, Jean-Philippe Doyen, bonsoir.
Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous.
Vous êtes le président de Sixt France, Sixt, l'un des leaders mondiaux de la location de voitures. Alors justement, on tourne le dos, en tout cas on espère, à la crise du Covid. On vient de tomber le masque dans les transports en commun. Est-ce que vous constatez, Jean-Philippe Doyen, un changement d'habitude après cette crise des Français dans leurs habitudes de location de véhicules?
Oui, alors déjà ce qu'on constate, c'est que le marché se porte nettement mieux depuis quelques mois, pour ce qui est de la location de véhicules et des services de mobilité d'une manière générale. Vous le savez, le marché avait été particulièrement impacté par les confinements successifs. Depuis, la clientèle touristique française, européenne se remet à voyager. Le voyage d'affaires reprend lentement et sûrement. Il nous manque encore certaines clientèles internationales, comme la clientèle asiatique ou bien sûr la clientèle russe, pour les raisons qu'on connaît. Mais globalement, la tendance est positive. Les Français se remettent à voyager, et puis on en parlera sans doute certainement, mais on a pu voir à travers l'Observatoire des mobilités qu'on a réalisé en collaboration avec l'IFOP qu'ils sont de plus en plus nombreux également à marcher, à prendre le vélo, et un petit peu moins nombreux qu'avant le Covid, à prendre les transports en commun.
Ouais, on sait que ça a été la catastrophe, on s'en souvient, pour Hertz, qui a carrément fait faillite aux États-Unis. C'était le premier grand groupe international victime du coronavirus. Comment vous avez résisté, vous, chez Sixt?
Chez Sixt, on a eu la chance d'être déjà sur une très belle tendance de progression avant la Covid. Au cours de la dernière décennie, en France par exemple, on a multiplié notre chiffre d'affaires quasiment par 5. Donc on était déjà sur une tendance de progression, et c'est vrai qu'on a mieux traversé la crise que d'autres, et donc on a plutôt significativement accru nos parts de marché dans un marché qui certes a diminué, mais au sein duquel on a pris des parts de marché et on vient de signer le meilleur trimestre de notre histoire avec des revenus mondiaux en progression de 76% et un résultat net en progression de plus de 50% par rapport à la période pré-Covid. Donc on est revenu sur un niveau d'activité supérieur à celui qu'il était avant la crise.
Ouais, vous mentionniez cet observatoire des mobilités que vous venez de publier avec l'IFOP. On vérifie ce que beaucoup d'entre nous pressentent ou vérifient déjà, hein, avoir une voiture. Ça coûte de plus en plus cher, surtout en zone rurale, Jean-Philippe Doyen.
Oui, alors en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, quand on interroge les Français sur leurs craintes et leurs espoirs en matière de mobilité, on voit bien que la question financière reste un élément important. Et quand on leur demande, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être de nature à favoriser la mobilité, ils évoquent immédiatement des actions en matière de la réduction des coûts du carburant, par exemple. Donc c'est vrai que le sujet financier, c'est un sujet qui intéresse bien sûr les Français.
Il y a un paradoxe dans ce sondage quand même. Près de 70% des Français, lit-on, ne comptent pas acheter une voiture électrique, alors que dans le même temps, les ventes bondissent. Comment ça s'explique, ça?
Oui, c'est le paradoxe de l'étude. Alors nous, c'est un sujet sur lequel on alerte évidemment les pouvoirs publics depuis de nombreuses années. On voit qu'il y a effectivement des ventes qui augmentent fortement. Je dirais qu'il y a un certain nombre de gens qui sont convaincus de l'intérêt de l'électrique et qui se laissent séduire. Mais il y a également encore, vous le disiez, deux tiers des Français qui n'envisagent pas d'acheter un véhicule électrique dans les prochaines années. Donc je crois qu'il y a plusieurs freins, hein, qui persistent. Le premier frein, c'est évidemment toutes les questions autour de l'autonomie, des infrastructures de recharge. Donc on considère qu'il faut continuer à investir massivement.
On est en retard en France sur les bornes de recharge, sur le maillage du territoire.
Ça dépend avec quel pays on se compare. Si on se compare à certains pays nord-européens, on est évidemment très en retard. Si on compare avec d'autres pays, on ne l'est pas. Mais je dirais, par rapport à l'objectif qui est fixé par l'Europe d'une mobilité complètement électrique dans les prochaines années, vous le savez, avec la volonté de ne vendre plus que des véhicules à basse émission, voire électriques en 2035, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et que de ce point de vue-là, oui, on est en retard. Hein. Aujourd'hui, c'est 2% du parc roulant en France qui est électrifié, hybride ou électrique. Donc, on a encore beaucoup de chemin à parcourir.
Est-ce que vous êtes en train, est-ce que vous êtes sur un programme justement d'électrification de votre parc de véhicules chez Sixt, ou est-ce que c'est très marginal?
Ah non, ça n'est pas marginal. On a déjà 35% de notre flotte qui est électrifiée. Être un loueur premium comme Sixt, c'est aussi accompagner les changements de société. Et donc, c'est vrai qu'on a pris les devants. Aujourd'hui, on propose à notre clientèle 70 modèles hybrides et électriques. Donc, pour ceux qui veulent venir tester la mobilité électrique, ils ont un large choix chez Sixt.
Mais alors, le problème, et vous le soulignez vous-même, c'est cette appréhension, enfin, légitime, liée justement au problème d'autonomie et ensuite de recharge des véhicules. Il y a sans doute peu de clients qui spontanément demandent des véhicules électriques compte tenu de ces problèmes.
Oui, c'est vrai qu'alors, en plus, on a chez Sixt, chez l'ensemble des acteurs de la mobilité partagée, des fois des clients qui ne sont pas dans leur environnement habituel, hein, qui sont en déplacement touristique et qui s'inquiètent effectivement de savoir à quel endroit ils vont pouvoir recharger le véhicule. Donc aujourd'hui, c'est vraiment encore les deux freins principaux, le réseau de recharge. Alors nous, on essaye d'accompagner nos clients. On a par exemple signé un partenariat stratégique avec ChargeMap pour fournir à nos clients à des tarifs privilégier l'accès à un réseau de bornes de recharge très important partout en Europe. On essaye également de faire de la formation au comptoir pour accompagner les clients vers une mobilité toujours plus électrique. Mais on a aussi besoin que l'État, le gouvernement, poursuive ses programmes de subvention, par exemple, qu'il finance le déploiement de bornes de recharge plus nombreuses, notamment dans les deux de modalités que sont les gares et les aéroports, par exemple.
Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe Doyen, président de Sixt France, l'un des leaders mondiaux donc de la location de voitures sur Europe 1.
Merci Alexandre.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, partenaire bancaire des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1, info. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Voyons ensemble les unes de la presse pour demain, mercredi. Elisabeth Borne s'installe, Macron prépare la suite. C'est l'équilibre du pouvoir, résumé par Le Figaro, la nouvelle première ministre qui prend ses marques à Matignon et qui compose, sous la houlette du chef de l'État, son équipe gouvernementale. L'Opinion vous raconte demain comment le plan B s'est imposé. Et oui, car jusqu'à dimanche, au terme de 3 semaines de cogitation, c'est la nomination de Catherine Vautrin à Matignon qui était une option extrêmement sérieuse. Catherine Vautrin, présidente LR du Grand Reims, ancienne secrétaire d'État de Jacques Chirac. Finalement, la nouvelle première ministre Elisabeth Borne a été nommée au terme de luttes d'influence croisées qui ont suscité de fortes tensions autour du chef de l'État. L'un des gros chantiers d'Elisabeth Borne, rappelle Libération, le changement climatique. La première ministre entourée à la une de Libé d'un chapelet de marguerites. Le changement climatique, ça urge un peu, beaucoup, car la première ministre est désormais chargée directement de la planification écologique. Or, la France accuse déjà un sérieux retard, écrit Libération. 22h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. C'est la Libre Antenne avec Olivier Delacroix, qui n'est pas entouré, lui, d'un chapelet de marguerites.
Pas du Olivier. Tout. Pas du tout.
Ou alors en rêve.
Oui, ou alors, oui, c'est ça. J'y étais pas du tout, le chapelet de marguerites. Ça m'a un peu... Ah d'accord,
je le montre. C'est la une de Libé. Voilà.
Très joli. Hein Très voilà. joli. Et pourquoi des marguerites? Je n'ai pas saisi.
Bah on effeuille la marguerite, vous voyez, c'est le chrono, le timing du contre-la-montre, en fait, du changement climatique. Il faut y aller très vite.
Oui,
ça, en fait, c'est le message de Libé, en fait. C'est que ça
Ceci
urge,
dit,
voilà.
Excellent message de Libé, parce que lorsqu'on voit les températures qu'il a fait à Paris
aujourd'hui,
on peut se poser certaines questions sur le dérèglement climatique qui semble aller plus vite même que la manœuvre, comme on dit chez moi.
Et Marlène nous a confirmé qu'il fera encore plus chaud demain. Il fera même lourd demain. C'est 33 degrés à l'ombre, 35 degrés à l'ombre.
Ce qui est assez pénible.
Ce qui est surtout pour un mois de mai.
Voilà. Et lorsqu'on n'a pas la mer, puisque je rappelle qu'ici, nous n'avons pas la mer. Parce que j'avais un ami de Bastia qui m'appelait ce soir et qui me disait « Non, mais il fait chaud, mais enfin ça va. » Je lui dis « Mais non, mais vous avez la mer, le vent. » Oui, il me dit oui. Et j'ai dit à Paris, voilà, on est entre des murs, le béton qui chauffe. Et aujourd'hui, c'était particulièrement, même en moto, c'était très chaud.
Oui, c'était un peu pénible.
Et je suppose que ce sont dans toutes les grandes villes, hein, Lyon, Bordeaux, je pense que tout ce qui est métropole, Lille, ça a dû être pénible aujourd'hui. Mmh. Alors quand il pleut, on se plaint. Quand il fait chaud, on se plaint. Vous
ça.
Voyez,
en gros, voilà.
On a fait nos pleureuses.
<C'est ça.
rire> Bon, très bien. Mais écoutez, on vous retrouve en tout cas pour un point sur l'actu.
Sur l'actu.
Et à minuit, un nouveau point météo.
Et sur la météo
Marlène,
à minuit, exactement.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.